Alors, salutations à tout le monde. Nous continuons le chapitre 8 du Bodhicharyavatara sur la méditation. Et nous en sommes maintenant à la stance numéro 4, qui est une stance très importante. En français, cette stance dit la chose suivante. C'est par la vue pénétrante associée au calme mental qu'on achève la destruction des passions. C'est donc le calme mental qu'il faut chercher en premier lieu. Et il naît d'un fervent renoncement au monde. Et donc, en tibétain, ça dit la chose suivante, cette stance. Et Rinpoche dit, je pense qu'il serait bien que je suive le texte tibétain un peu de façon mot à mot. Donc il relit le début du texte et il dit Shine, c'est le calme mental, c'est-à-dire c'est ce qui correspond à Shamatha. Et donc ce que dit le texte, c'est que avec une très forte et une très claire existence du calme mental, alors la vision pénétrante, en fait, une vision pénétrante dans laquelle, ou plutôt qui est basée sur ce très fort calme mental, c'est cela qui va complètement éradiquer les kleshas. Donc, Shamatha, la méditation de Shamatha, comme vous le savez, c'est celle qui consiste à demeurer dans le calme mental. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, du fait que dans le bouddhisme, si on regarde tout le spectre des méditations, il y en a énormément. Il y a beaucoup de types de méditations différentes. Il y a beaucoup d'approches de la méditation qui sont différentes. Il y a différentes façons de méditer, beaucoup de méthodes de méditation différentes. Mais toutes ces méthodes, si on essaie de les classer, elles rentrent dans deux catégories, Shamatha et Vipassana. Et donc, en ce qui concerne la méditation de Shamatha ou de Shine, c'est un type de méditation qui nous permet de rendre notre esprit calme et clair. C'est pour ça que l'on parle du calme mental. Shiwar n'est pas en tibétain. Shi, c'est le calme, et ne, c'est demeurer, c'est stabiliser. Donc, c'est rendre notre esprit calme et donc clair. Et cette méditation, rien que cette méditation-là, elle est très importante et elle est très puissante. Parce que quand on est bon en Shamatha, quand on est capable d'aller profondément dans la méditation de Shamatha, notre esprit, ça peut le rendre très clair et toutes ses qualités naturelles peuvent se manifester. Et toutes sortes de pouvoirs de la méditation peuvent devenir apparents rien que par la méditation du calme mental. Par exemple, le fait d'être capable de voir et de comprendre à travers l'espace et le temps. Toutes ces qualités-là viennent de ça, la clairvoyance et tout ça. Et beaucoup de pouvoirs mentaux proviennent du calme mental. Mais le calme mental, bien sûr, il peut calmer nos émotions, il peut rendre notre esprit très calme et très clair, mais il ne permet pas de déraciner complètement les kleshas. Et c'est pourquoi Il est dit que ce calme mental, il est nécessaire en tant que base, mais que plus important et le plus important, c'est la méditation de Vipassana, qui signifie ici la vision pénétrante. C'est comme ça que c'est traduit ici, la vue pénétrante. Donc ça veut dire savoir, comprendre et faire l'expérience de comment sont les choses vraiment, comment vous vous êtes vraiment, comment l'esprit est vraiment, comment tous les phénomènes sont en réalité. Donc il s'agit d'être capable d'en faire l'expérience clairement, de le comprendre clairement, de le voir clairement. Et c'est pourquoi on l'appelle la vue pénétrante. Et donc c'est cette vue pénétrante qui va permettre d'éradiquer complètement les kleshas. Mais cette méditation de la vue pénétrante, elle se... En fait, en tant que base pour cette méditation-là, il faut la méditation du calme mental qui devient très importante en tant que base pour la méditation sur la vue pénétrante. Bien sûr, alors, ces deux méditations ne sont pas non plus complètement séparées. Quand vous faites la méditation du calme mental, ça va aider au développement de la vue pénétrante. Parce que la vue pénétrante, elle consiste à savoir, à connaître la vraie nature des choses, mais elle n'est pas que intellectuelle, elle doit être une expérience que nous vivons, une expérience vécue, et donc la méditation du calme mental devient nécessaire pour accéder à ça. Donc, Rinpoche reprend le texte et explique que nous devons comprendre cela parce que c'est une compréhension qui est très importante et très fondamentale dans le bouddhisme, que le fait que la méditation de la vue pénétrante, associée et avec ayant comme base, comme fondement, une puissante méditation du calme mental, que c'est ces deux choses associées qui vont permettre de nous débarrasser complètement et de purifier complètement et de déraciner, vraiment prendre par la racine les kleshas. Et donc c'est ça qui sera en mesure de nous amener à une libération complète de l'état d'esprit samsarique. Donc c'est une façon de penser qui est très importante dans le bouddhisme, donc c'est très important. Et maintenant, et donc là, Rinpoche lit la suite du texte, et donc dit que, ok, d'abord, on doit trouver Shamatha, on doit rechercher Shamatha, on doit pratiquer Shamatha. Donc, il y a en fait beaucoup, en fait, au moins quelques systèmes différents. Dans certaines écoles, on ne fait que Shamatha d'abord, Shamatha, 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 et quand on a une très bonne base en shamatha, alors et alors seulement on commence Vipassana. Et puis il y a d'autres systèmes dans lesquels on pratique shamatha, mais on pratique aussi un peu avec Vipassana associé. Et puis il existe d'autres systèmes encore qui commencent par Vipassana et qui, à travers cela, essaient de cultiver Shamatha. Donc, il y a des approches qui peuvent être légèrement différentes l'une de l'autre, mais en fait, l'approche à choisir peut probablement dépendre aussi d'une personne à une autre. Mais en tout cas, l'instruction générale, c'est de d'abord essayer de pratiquer Shamatha. Et comment est-ce que nous obtenons Shamatha? Comment nous pouvons atteindre Shamatha? Vous savez, on a ces six consciences, qu'on appelle les six consciences ou les six sens, la conscience visuelle, la conscience auditive. Avec les yeux, on voit, avec les oreilles, on entend. Avec le nez, on peut sentir. Avec la langue, on a le goût. Et avec le corps en entier, on a le ressenti tactile. Et avec l'esprit, avec cette conscience mentale, on peut connaître. On a la faculté de connaître. Donc ça fait six sens. Bien sûr, parmi ces six sens, les cinq premiers ont besoin de l'esprit. C'est-à-dire que vous voyez avec vos yeux, mais vous ne pourriez pas discerner et reconnaître sans votre esprit. De même, vous entendez avec vos oreilles, mais vous ne pourriez pas entendre complètement ou reconnaître complètement ce que vous entendez sans l'esprit. Donc, l'esprit, le sixième de ces sens, est très important. Bon, là, on parle de six consciences, parfois on parle de huit consciences. On ne va pas parler des huit consciences ici, parce que dans l'approche Madhyamika, on ne parle que de six consciences. En fait, lors du deuxième tour de roue, deuxième Dharma Chakra, le Bouddha a parlé des six sens. Dans le troisième tour de roue, le troisième Dharma Chakra, le Bouddha a davantage parlé des huit consciences. Donc, en ce qui concerne le sixième sens, celui de l'esprit, c'est le lieu dans lequel shamatha doit se produire, dans la conscience mentale. Si vous faites en sorte que votre conscience mentale soit dans cet état de conscience, mais sans être distraite par ce qui vient des autres consciences, sans courir après les impulsions qui lui viennent des autres sens, alors la méditation de shamatha est accomplie. Donc, il y a différentes méthodes qui sont utilisées. Donc, comme par exemple d'apprendre à se détendre, se relaxer, d'abord le corps, ensuite l'esprit, parce que notre esprit est très dépendant de notre corps et en particulier notre esprit dépend des cinq sens. Et donc, quand nous arrivons à nous détendre, alors nous pouvons devenir moins turbulents, moins distraits, moins dispersés. Et donc on apprend à se détendre. Et puis ensuite, on ne peut pas arrêter tous les sens. Nous voyons, nous entendons, nous ressentons, nous avons le sens olfactif. Mais on peut... En fait, on essaie de se focaliser de temps en temps un peu sur une seule chose, comme par exemple la respiration, au lieu de se laisser embarquer par les objets des sens. Par exemple, on peut se focaliser sur un son, sur un objet, soit un objet que nous regardons, soit un objet que nous pouvons percevoir en le touchant, soit un objet que nous imaginons ou que nous visualisons, ou quelque chose comme ça, mais d'une façon très détendue, et nous autorisons notre esprit à se détendre. Et donc, afin d'arriver à ça, nous travaillons là-dessus, nous méditons là-dessus, et quand nous arrivons à détendre notre corps, notre esprit et nos sens, et quand tout ce qui arrive autour de nous n'est plus ne vient plus complètement distraire notre esprit, et alors tout doucement nous découvrons que nous pouvons atteindre cette paix de l'esprit et que cette paix de l'esprit elle n'est pas liée seulement à ce qui se passe autour de nous, mais qu'elle est liée à nous, à comment nous réagissons, que nous pouvons apporter de la paix et de la stabilité à notre esprit par nous-mêmes. Si nous apprenons et si nous savons comment y parvenir. Et plus nous aurons la confiance, plus nous saurons comment faire cela, moins ça aura d'importance à ce qui se passe autour de nous, qu'il y ait des sons, qu'il y ait des choses qui se produisent, ça n'aura plus tellement d'importance. Ce qui va compter, c'est comment notre esprit réagit à toutes ces choses. Et c'est pourquoi donc la suite du texte dit que le calme mental, il faut pour l'obtenir, il ne faut pas être attaché. Donc ici, c'est écrit dans le texte que ça naît d'un fervent renoncement au monde. Et Rinpoche dit, il s'agit surtout de ne pas être trop attaché aux choses du monde, aux choses qui se passent. Et prendre de la joie à ne pas y être attaché. C'est ça qui permet de réaliser shamatha. Ce qui permet d'obtenir shamatha, c'est de ne pas devenir attaché de façon addictive à tout ce qui se passe autour de nous et dans le monde. C'est ça le point essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Si vous êtes trop attaché à quelque chose, alors votre esprit se tourne tout le temps vers cette chose. L'esprit est tout le temps occupé par cette chose. Vous êtes toujours inquiet, vous vous sentez toujours préoccupé, concerné, et vous pensez à cette chose. Et si par exemple c'est une personne, vous vous demandez ce que cette personne fait, et si par exemple elle est agréable envers vous ou pas, vous vous demandez ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, le moindre chose qu'elle dit, ça peut vous rendre heureux ou inquiet. Donc ça crée trop de distractions. De même, si vous êtes attaché non pas à quelqu'un mais à quelque chose, que cette chose soit une chose matérielle, une chose concrète comme votre voiture, votre maison, votre argent, votre travail, ou que ce soit votre nom, votre renommée, votre célébrité, quoi que ce soit, le plus vous êtes attaché à quelque chose, plus votre esprit va être distrait et il ne pourra pas vraiment se poser parce que vous serez constamment en train de penser à cette chose. Et donc, afin que votre esprit puisse devenir calme et clair, qu'il puisse progresser en shamatha, il nous faut apprendre à nous libérer de ce type d'attachement. À moins que nous n'arrivions à libérer notre esprit de cela, nous ne pourrons jamais trouver la paix de l'esprit. C'est pas grave d'être préoccupé par certaines choses, c'est ok. Si, par exemple, vous voulez que vos êtres chers soient heureux, vous voulez les aider à obtenir tout ce qu'il leur est possible d'obtenir, vous devriez le faire et vous devriez tout ce qui est en votre pouvoir pour les aider à rendre les choses meilleures pour eux. Mais vous avez également besoin de sentir de la paix dans votre esprit, de la stabilité dans votre esprit. Si votre esprit est constamment et trop inquiet, impliqué, tracassé, distrait par tout ça, en fait, ça ne va pas aider à améliorer les choses pour les autres et ça ne va pas non plus être bon pour vous. Et même parfois, si vous êtes trop attaché à quelqu'un, en fait, vous essayez trop de les contrôler. Et ça peut même détruire la relation. En fait, pour maintenir une bonne relation, il faut donner de la liberté, il faut donner beaucoup de liberté. Et si vous êtes trop attaché, vous ne pouvez pas donner trop de liberté, vous ne le feriez tout simplement pas. Et donc l'attachement n'est ni bon pour l'autre, ni bon pour vous, puisque ça vous interdit l'accès à la paix de l'esprit. Et parce que ça fait que vous réagissez trop. Si quelqu'un que vous aimez ou à qui vous êtes attaché dit ne serait-ce que quelque chose d'un tout petit peu, ne donne qu'un tout petit signe, laissant sous-entendre qu'il ne vous aime pas, qu'il ne vous apprécie pas, ou qu'il ne va pas dans votre sens, vous vous en trouvez très blessé. Et là, dans ce cas-là, vous êtes totalement perturbé et vous ne pouvez plus avoir la paix de l'esprit. Et donc, à la fois pour votre bien à vous et pour le bien des autres, et aussi, si vous êtes attaché aux choses, si vous voulez quelque chose, si vous trouvez que quelque chose est très important, d'accord, vous pouvez obtenir cette chose, mais sans exagérer. Et aussi, se souvenir que tout ce qui existe, que ce soit les gens, les choses, tout cela change constamment. Donc, ce que je dis ici, c'est que si j'arrive à libérer mon esprit d'un attachement excessif aux choses, c'est ça qui va être la clé qui va permettre à notre esprit de se poser et de se calmer. Donc, ce que nous essayons, c'est de comprendre que pour avoir un vrai bon shamatha sur le plan pratique, il nous faut apprendre à libérer notre esprit et à laisser s'en aller l'attachement excessif, au moins pendant la durée de la méditation. Ou que tout doucement, quand on veut que notre esprit soit libre, que nous maintenions ça, certes, nous aimons les gens, nous voulons des choses, nous aimons les choses, nous nous intéressons à beaucoup de choses, mais le fait de s'y attacher trop, constamment et trop, et si nous réagissons trop, et si nous sommes trop impliqués, et si nous avons trop de saisies, ça va pas nous aider, que ça concerne des gens ou que ça concerne des choses. Donc, il nous faut apprendre à nous libérer de cet attachement, au moins pour un moment. Et cela, de plus en plus, c'est ça qui va faire en sorte que notre amour et nos préoccupations positives pour les gens, ça va rendre tout cela beaucoup plus authentique et beaucoup plus utile. Et également beaucoup plus viable. Parce que nous serons en mesure de donner beaucoup de liberté. Et quand nous avons nous-mêmes de la liberté, quand notre esprit est ouvert, en fait, c'est bon pour tout le monde. Les relations deviennent très bonnes. Parce que vous n'êtes plus tout le temps en train de réagir. Vous n'êtes plus tellement blessé par la moindre chose qui se produit. Tout devient, vous pouvez accueillir ce qui vient. Et donc, c'est une chose très importante pour vous et pour tout le monde. Et puis, vous pouvez du coup aussi trouver la paix de l'esprit. Et plus vous faites cela, plus les choses changent. En fait, aussi, quand vous perdez quelque chose, vous n'en êtes plus totalement dévasté. Quand quelqu'un par qui vous vous sentez concerné ne ressent pas les mêmes sentiments envers vous, ça ne vous met plus par terre, parce que vous savez que tout change, que tout est transitoire, que rien ne reste identique à soi-même, et donc vous arrivez mieux à laisser les choses être. Et donc, vous devenez complètement indépendant et libre. Et donc, c'est un message très important que les gens, qui est très difficile à comprendre pour les gens. Pour nous, les personnes sur Terre, nous avons beaucoup de difficultés à vraiment comprendre cela profondément. Donc, ça, c'était la stance numéro 4, et je m'arrête là. Merci à tous.